Alors, si vous êtes là pour la première fois ou que vous prenez le train en marche, sachez qu'on est dans une série qui s'intitule « La grande histoire ». Et aujourd'hui, alors ça ne marche pas, tu peux me connecter ? Voilà, on est sur un livret que vous devriez avoir normalement. Si vous ne l'avez pas, je vous le rappelle, c'est un péché. Si vous n'avez pas encore ce livret, demandez-le. On peut vous le fournir. Alors là, on a épuisé tous nos stocks, mais on va recommander. Donc, faites-le, s'il vous plaît, et allez voir Anne-Marie. Anne-Marie, est-ce que tu peux te montrer, s'il te plaît? Tu te lèves, que tout le monde te voit. Vas-y, vas-y, n'hésite pas. Si les gens ne te connaissent pas, voilà. Anne-Marie se charge de noter vos noms et pour les commandes, d'accord? Il reste encore deux livres, trois ou deux? Il n'y en a plus qu'un, ça va. Il nous reste encore un exemplaire. Non, mais pas de celui-là, hein. Je ne parlais pas de celui-là. Là, je parle de John Glass. On a commandé, il y a eu cinq personnes qui nous ont commandé. On a commandé les livres, ils sont là, mais les personnes ne le réclament pas. Donc, je vous invite à aller voir Anne-Marie aussi pour récupérer les livres et les payer accessoirement. Alors, donc du coup, je disais, ce manuel, il a deux objectifs. Pourquoi on fait cette série-là ? Le premier objectif, c'est de donner à chaque membre de l'Église une vue d'ensemble de la Bible. Depuis la création de l'univers jusqu'à la fin de l'histoire. Avoir le fil conducteur, c'est hyper important en fait. On sait d'où on vient et où on va. Et ça, c'est super important. C'est pas simplement Jésus. Oui, on peut parler de Jésus, mais là, on comprend pourquoi Jésus est venu. Parce que c'est le créateur du monde qui a créé l'univers, qui nous a créés. On va regarder ce matin, vous allez voir que c'est pas une mince affaire. En tout cas, là, c'est le premier objectif, donc vous donner une vue d'ensemble. Et le deuxième objectif, c'est de permettre à chaque membre de pouvoir conduire d'autres personnes dans la connaissance de la Bible. Et c'est pour ça que je prêche chaque dimanche, je réponds à toutes les questions qui sont dans le livret. Donc là, je vous prémâche, on est dans le hamburger, c'est du prémâchage. Et donc, vous avez toutes les réponses. L'idée, ce n'est pas de donner toutes les réponses ou d'attendre toutes les réponses, mais de ne pas être surpris par les réponses de nos amis et éventuellement de corriger, de réorienter si les réponses étaient complètement à côté de la plaque. Ça arrive rarement, si la personne a pris le temps de lire le texte. Normalement, on devrait tous arriver aux mêmes conclusions parce qu'on se limite au texte de la Bible. Et dans ce livret, il n'y a que des versets de la Bible, quelques explications et surtout des questions. D'accord ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Je rappelle à chaque fois l'objectif, je suis désolé si c'est de la redite, mais vous devriez être capable de dire exactement la même chose parce que ça fait déjà la sixième fois que vous l'entendez. Et donc je pense qu'à la douzième, tout le monde est capable de le réciter, je vous interviewerai et je mettrai des notes. Alors, 12 sessions et on en est à la session numéro 5. On a vu ensemble la session... Voilà, la première, enfin c'est la session zéro, on l'a rajoutée parce qu'elle faisait partie du livret, puis ils l'ont enlevée, mais on l'a laissée. La Bible est-elle fiable? C'est un des messages de John Glass, excellent message que vous pouvez aller écouter. Deuxième, ça ne marche toujours pas, c'est dingue. C'est le bon capteur? Le deuxième, la création. On avait étudié Genèse 1 et 2, donc lu quelques versets dans le chapitre 1er et 2e, où on découvre que Dieu a créé un monde parfait. Ensuite, il va falloir me donner une autre télécommande. Dans la session 2, on avait vu l'indépendance en lisant Genèse chapitre 3. L'indépendance, c'est quoi? C'est l'autonomie, c'est l'homme qui choisit de devenir autonome, et donc il va désobéir à Dieu et il va y avoir des conséquences. Et on fait comme si j'appuyais. La session 3, c'est le sacrifice. Donc Genèse chapitre 12, chapitre 17, c'est la vie d'Abraham. Et donc on voit des promesses que Dieu fait justement pour rétablir cette relation. Merci beaucoup. Et on va voir que Abraham est confronté à une situation où il va devoir offrir son fils. Et donc, quelque part, ça prépare le terrain. Et on montre que pour être en lien avec Dieu, bah, ça passe par le sacrifice. Pour rentrer en relation avec Dieu, ça passe par un sacrifice. Mais cette promesse va s'enrichir. Et donc, on arrive à la session 4. Et dans la session 4, on voit plusieurs textes, dont Exode 20, hein, facile à retenir. Exode 20, c'est les 10 commandements. Exode 20, 10 commandements. Facile à retenir, non? Donc 10 commandements. Et donc là, on voit l'incapacité de l'homme à lui-même obéir à cette loi. Et puis, on a vu aussi Ésaïe 53, ça c'était le dernier message. Donc, le Messie qui est annoncé, on sait ce qu'il va venir faire et pourquoi il va venir. Et puis, ceux qui ont fait leur groupe de maison cette semaine, ils ont dû faire peut-être comme nous l'avons fait cette semaine. On a traité Jérémie 31, donc c'est le texte qu'on n'a pas vu dans la prédication, mais que nous avons traité en groupe de maison. Donc, il y a les notes qui sont là. Et donc, je les ai préparées, simplement, je n'ai pas eu l'opportunité de prêcher, parce qu'après, c'est trop long. OK, donc là, on va faire un petit résumé, et c'est ce qu'il y a dans votre manuel. Je vais vous dire, si vous voulez suivre avec votre manuel, c'est le but, hein, et vous prenez des notes. Donc là, on a la session 5, et c'est à la page 26. Et vous pouvez lire avec moi le résumé. Alors, je vous l'affiche ici, ceux qui n'ont pas encore le manuel. Mais sinon, les autres, vous pouvez lire directement dedans. Dieu révèle ses exigences morales. Ça, c'est le résumé de la dernière fois. Pour lui être agréable, il faut parfaitement vivre selon ses lois. Le problème, c'est que personne n'y arrive pleinement. Dieu annonce alors un plan de secours, une nouvelle alliance qui changera le cœur et réglera la question de la culpabilité sous la forme d'un substitut. Une personne viendra, le Messie. Il prendra notre mal sur lui-même. Voilà le résumé des deux séances qu'il y a eu avant dans la session 4. Et donc on arrive ici à la session 5 qui s'intitule Sauveur. Sauveur, là ça commence à parler déjà, hein, on précise les choses. Et donc on arrive à cette leçon, et l'objectif de cette leçon, c'est découvrir l'identité du Messie. Hein, j'ai essayé d'éviter d'utiliser le nom de Jésus jusqu'ici. Alors, ça m'a lâché une ou deux fois, hein, évidemment, ça paraît logique. Mais là, je vais pouvoir me lâcher maintenant, parce que le nom va apparaître. Le nom va apparaître, et c'est d'ailleurs le but, c'est qu'on découvre qui est ce Messie, comment la Bible le révèle. Alors je vous invite, vous allez pouvoir suivre le texte ici, vous pouvez le suivre aussi dans les manuels, mais on va écouter le texte, il est assez long, c'est Luc chapitre 1, si vous avez une Bible, prenez vos Bibles, c'est à partir du verset 26 et ça va être jusqu'au verset 56, donc 31 versets à lire ensemble. Allez, je laisse...
appelé Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. » Il règnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange,
« Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?»
L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Voici qu'Élisabeth, ta parente, est-elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse? Celle que l'on appelait la stérile est dans son sixième mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu.
Je suis la servante du Seigneur. Que ta parole s'accomplisse pour moi.
Et l'ange la quitta. À la même époque, Marie s'empressa de se rendre dans une ville de la région montagneuse de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth.
Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement en elle, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte.
« Tu es bénie parmi les femmes, et l'enfant que tu portes est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi ? En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi. Heureuse celle qui a cru, parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. »
Marie dit :
« Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici, désormais toutes les générations me diront heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint, et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a agi avec la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés, et il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa bonté, comme il l'avait dit à nos ancêtres, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. »
Marie resta environ 3 mois avec Élisabeth, puis elle retourna chez elle.
Voilà la fin de la lecture du texte. Merci à la technique, c'est compliqué ce matin, ils doivent faire des allers-retours et c'est pas terminé. Alors, eh bien, si vous avez le manuel, vous allez voir qu'il y a des questions à la page 28. Et donc on va les prendre l'une après l'autre et on va traiter chaque question. Et la première de ces questions, c'est celle-ci. Décrivez cet enfant, sa conception, sa généalogie, ses relations avec Dieu et avec les autres et sa mission. Alors, première question qui nous est posée parle de la conception de Jésus. Et moi, je dirais qu'elle tient en 2 mots. Miraculeuse et inédite. Pourquoi miraculeuse ? Eh bien, quand on lit le récit, on voit qu'il y a quelque chose de bizarre, n'est-ce pas ? Vous êtes comme moi, vous avez lu le texte, et aujourd'hui, lorsque une grossesse nous surprend, hein, par exemple, il peut y arriver un bébé malgré la contraception, ou dans un contexte de violence, je pense à un viol, ou encore une assistance médicale à la procréation, ça reste toujours lié à un processus biologique qui implique l'union d'un spermatozoïde à un ovule. D'accord ? C'est toujours comme ça que ça marche et il n'y a pas d'exception. Aucune naissance naturelle n'existe sans cette union biologique. Alors, soit on la crée artificiellement, soit elle a lieu à un moment donné. Mais sans ça, ça n'existe pas. La vie ne peut pas apparaître sans un spermatozoïde et sans un ovule. Et ça, ça marche pour les fleurs, ça marche pour les animaux, ça marche pour tout en fait. Tout être vivant se réplique, se duplique et vit et produit lui-même après sa propre semence qui va se reproduire. Et Dieu l'a choisi ainsi et c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a aucun cas où cette union se produit sans intervention humaine, soit directe, soit indirecte, d'accord ? Et il faut que ce soit très clair. Par exemple, 2 hommes ne peuvent pas avoir de bébé, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire gober en ce moment. Hein, on voit des hommes enceints. Ben non, ce n'est pas des hommes enceints. Ce sont des femmes qui ont un utérus, qui ne se sont pas fait totalement transiter, qui ont voulu garder leurs organes intérieurs et qui se sont fait inséminer ou implanter des spermatozoïdes. Et donc, du coup, comme elles ont une apparence d'homme, on dit que ce sont des hommes enceints, mais non, ce sont des femmes avec une apparence d'homme, mais qui ont gardé leur utérus. Mais on ne pourra jamais implanter un utérus dans un homme, ni faire produire des spermatozoïdes à une femme. Et là, biologiquement, c'est impossible, les amis. Et malgré tout ce qu'on essaye de faire, de vouloir interchanger, on n'y arrivera pas. Parce que Dieu, il a bien fait les choses. En tout cas, quand je dis que c'est une naissance miraculeuse, pourquoi on dit ça ? Parce qu'il n'y a pas d'intervention humaine. Et le médecin qui a rédigé ce texte, je pense qu'il avait dû accoucher des femmes aussi, hein, il avait quand même une connaissance de la science, pas aussi poussée que nous, certes, mais il affirme dans le texte, hein, parce que Luc, l'évangéliste qui écrit, il était médecin. C'était son métier, historien et médecin. Donc il avait une connaissance de la science. Et lui dit que le Saint-Esprit viendra couvrir de son ombre Marie. Parce que ça l'étonne, Marie, elle dit « Quoi ? Mais comment je vais faire ? J'ai connu personne. Joseph, c'est mon fiancé, mais comme c'est le cas en Israël à l'époque, et que ça devrait être le cas dans l'Église aujourd'hui, il n'y avait pas de relation sexuelle avant le mariage. Donc Marie est étonnée. Vous voyez, ce n'est pas une surprise comme nous, on pourrait l'avoir aujourd'hui. Ah, elle est tombée enceinte, ok, ils ont couché avant le mariage. Non, là, c'est une vraie surprise. Elle dit, mais comment je vais faire ? Comment ça va se passer ? Explique-moi. Vous voyez, elle est surprise, Marie. On va rentrer dans les détails tout à l'heure. Mais ça veut dire qu'elle n'a jamais couché avec Joseph et qu'elle va avoir un bébé. Donc, une femme qui n'a pas de relation sexuelle avec un homme, et comme je viens de l'expliquer, c'est impossible d'avoir un bébé. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est miraculeux. Et je sais que c'est une des questions sur lesquelles on vient, les gens athées ou qui sont dubitatifs vis-à-vis de la Bible, nous disent « Ah oui, mais vous, les protestants, vous n'êtes pas comme les catholiques. Vous ne croyez pas en la virginité de Marie. » Eh bien si, les amis. Sur ce point-là, précisément sur la virginité de Marie, on est d'accord avec les catholiques. Ok ? Et il faut que ce soit clair, Marie était vierge. Pourquoi on le croit ? Parce que c'est écrit dans la Bible. On ne croit pas tout ce qu'ils ont rajouté, hein, les traditions, mais tout ce qui est dans l'Écriture, c'est cachère. On peut le prendre. Donc oui, Marie, eh bien, l'union va donner naissance à un bébé sans rapport sexuel. Et c'est pour ça que c'est miraculeux. C'est aussi, si on y réfléchit bien, en fait, la naissance virginale du Messie, elle n'est pas plus miraculeuse que la création de l'univers, ou bien que l'ouverture de la mer Rouge, ou bien que la manne, hein, les Kellogg's Cornflakes qui descendaient du ciel avec toutes les bonnes vitamines suffisantes qui descendaient du ciel chaque matin, ou bien la naissance de Isaac, vous vous souvenez ? À quel âge elle a couché, Sarah ? Dites-moi. Vous relirez Genèse 17:17 et 21:5, d'accord ? Elle n'avait pas 25 ans, elle avait beaucoup plus, 90 ans. Abraham avait 100 ans lorsque Isaac fut né, 90 ans. Autrement dit, et ça la fait rire, elle était ménopausée depuis bien longtemps, la dame. Donc, accoucher à 90 ans, c'est déjà un miracle, les amis, hein ? Okay. Mais probablement qu'il y a eu un rapport sexuel. Dieu a fait en sorte qu'elle ovule. Mais Jésus, c'est inédit. C'est-à-dire que là, il n'y a absolument pas de contact avec un homme. Et donc, il va naître comme ça. Mais vous savez que, en fait, l'apparition de la vie, ou la vie elle-même, c'est un miracle. La plupart des gens ignorent la complexité pour que la vie apparaisse. Mais aujourd'hui, on a une telle connaissance des processus biologiques que même les plus grands scientifiques sont obligés de reconnaître que l'apparition de la vie est soit un mystère, soit un miracle. Voici ce que disait Francis Crick. Ça y est, j'ai reperdu le signal. Donc, Francis Crick, il était prix Nobel de médecine en 1980. Alors, vous allez me dire, ça date. Oui, mais quand même, il était prix Nobel, hein. Et donc, voilà ce qu'il dit, lui. « Un honnête homme armé de tout le savoir à notre portée aujourd'hui se devrait d'affirmer que l'origine de la vie paraît actuellement tenir du miracle. » C'était en 81. Aujourd'hui, nos connaissances sont bien plus poussées et on avance chaque jour. Mais plus on avance, vous savez quoi ? Plus on découvre que la complexité de 1980 était très loin de la complexité qu'on connaît aujourd'hui dans un détail beaucoup plus grand. Et on va regarder une petite vidéo, vous allez voir pourquoi. Un autre prix Nobel de médecine, plus tard, 92, lui, voilà ce qu'il disait. « La vie la plus primitive peut exiger plus plusieurs centaines de macromolécules biologiques différentes. Comment de telles structures ont-elles pu s'assembler ? Cela reste pour moi un mystère. La possibilité de l'existence d'un créateur, de Dieu, représente pour moi une solution satisfaisante à ce problème. Les amis, on n'est pas en train de discuter autour d'un comptoir de bar avec trois petits verres de vin rouge. Là, on parle de prix Nobel. C'est les plus gros cerveaux de la planète. Voilà leur conclusion. Je trouve ça quand même assez hallucinant. Les scientifiques aujourd'hui sont formels. La vie ne peut pas exister par hasard. Elle n'a pas pu arriver par hasard. On sait qu'il existe aujourd'hui des dizaines de facteurs absolument indispensables pour l'apparition de la vie. Et là, je vais vous montrer une petite vidéo qui dure 3 minutes. Juste pour vous montrer la production, la fabrication d'une protéine. Et vous allez voir que la protéine, elle est nécessaire à la vie. Mais regardez juste ce petit extrait de 3 minutes, la fabrication d'une protéine. Alors c'est sous-titré en anglais, mais c'est en français la bande-son.
Tous les êtres vivants tirent leur énergie de leur nourriture. Ils consomment en partie cette énergie en se déplaçant, par exemple, afin de se nourrir à nouveau. À chaque fois, les protéines sont en jeu, mais elles ne sont pas toutes présentes en même temps dans le corps. Chaque cellule est capable de produire une protéine quand elle en a besoin, et de la détruire quand elle n'en a plus besoin. Mais comment font-elles ? Toutes sortes de signaux informent la cellule qu'il faut produire une nouvelle protéine. Quel que soit le signal, la production d'une protéine commence dans le noyau de la cellule, là où se trouvent les chaînes d'ADN qui sont constituées d'enchaînements de nucléotides et enroulées en hélice. Ces chaînes contiennent tous les gènes. Chaque gène correspond à un fragment d'ADN et la succession de ces nucléotides constitue un code qui va permettre de produire une protéine particulière. L'ARN polymérase se charge de rendre ce code exploitable. Il ouvre des chiffres la chaîne d'ADN afin de synthétiser une molécule, l'ARN messager. Les brins d'ARN messager servent à transporter l'information contenue dans le gène en dehors du noyau. L'ARN messager reçoit des transformations comme la suppression de certaines parties ou des modifications chimiques et l'ajout d'extrémités qui le protègent contre une dégradation par des enzymes. L'ARN messager sort alors des noyaux. Ses extrémités permettront aux ribosomes de le reconnaître pour le déchiffrer. Les ribosomes sont d'énormes machineries moléculaires responsables de la synthèse des protéines. À mesure de la lecture de l'ARN messager par le ribosome, chaque succession de 3 nucléotides forme ce que l'on appelle un codon et permet la sélection d'un acide aminé qui vient s'ajouter à une chaîne. Cette chaîne en cours de synthèse est appelée chaîne polypeptidique. Certains acides aminés qui constituent la chaîne polypeptidique ont une grande affinité les uns pour les autres, ce qui replie la chaîne pour construire sa forme. Les molécules d'eau du cytoplasme contribuent aussi au repliement, en attirant ou repoussant d'autres parties de la chaîne. Certaines de ces chaînes ont besoin d'être protégées par des protéines que l'on appelle chaperones. Elles assistent le processus de maturation des chaînes en protéines en garantissant les bonnes conformations. Enfin, il arrive que plusieurs chaînes polypeptidiques s'associent en un assemblage que l'on appelle complexe quaternaire.
Vous ne trouvez pas que c'est simple, la vie ? Il a parlé d'une cellule. Ça, c'est une cellule vivante. Une seule. Imaginez ça. En fait, une cellule, c'est une usine ultra-moderne et ultra-complexe. Mais ce n'est pas n'importe quelle usine, hein. Parce que cette usine, elle est capable de se reproduire elle-même, elle est capable de se réparer toute seule et de fonctionner sans arrêt pendant des années. C'est ça, en fait, une cellule vivante. Et pour qu'une simple cellule vivante existe, il faut au minimum... Et alors là, je vous ai mis ici un schéma. Alors voilà, ça, c'est l'usine ultra complexe. En fait, je vous ai mis un petit schéma. Et je vais vous donner des petites métaphores pour que vous compreniez. Pour que tout ça fonctionne, pour que la cellule fonctionne, il faut déjà un manuel d'instruction, ce qu'on appelle l'ADN. Okay ? L'ADN, c'est comme le livre de recettes de la vie. Il contient toutes les instructions pour fabriquer les protéines. Mais voilà le problème. Le manuel fait des centaines de pages. Okay ? Même la cellule la plus simple nécessite un ADN contenant au moins 400 recettes différentes. Alors comment un manuel peut-il s'écrire tout seul ? Eh bien, il lui faut des ouvriers. Et ça, ce sont les protéines. Les protéines sont les machines qui font tout le travail dans la cellule. Elles construisent, réparent, transportent et détruisent. Mais pour fabriquer ces protéines, il faut lire l'ADN. Et vous voyez le problème ici ? On a besoin de l'ADN pour faire les protéines, mais on a besoin des protéines pour lire l'ADN. Ah, déjà, on se dit, ouf, ça commence à se compliquer. Mais il nous faut aussi les ribosomes, vous l'avez vu tout à l'heure. Et ça, c'est l'usine de production. Les ribosomes sont les machines qui lisent l'ADN et fabriquent les protéines. Mais les ribosomes eux-mêmes sont faits de protéines. C'est comme si on vous disait, pour construire l'usine, vous avez besoin de machines, mais pour avoir les machines, vous devez d'abord avoir l'usine. Vous voyez, c'est un processus qui est complètement imbriqué. Et il faut transporter cette information, on l'a vu, c'est l'ARN, l'ARN messager, ça vous dit quelque chose, ça, l'ARN messager, parce que c'est comme ça qu'on a transmis le vaccin contre le Covid. L'ARN, c'est le coursier qui transporte les instructions de l'ADN vers les ribosomes. Sans lui, rien ne fonctionne. Mais l'ARN ne peut pas exister sans les protéines qui le fabriquent lui-même. Et donc, il lui faut ensuite une enveloppe protectrice, on l'a vu, et ça, c'est la membrane cellulaire. Toute cette machinerie doit être protégée, donc dans cette membrane. Sinon, tout se disperse et rien ne fonctionne. Mais cette membrane elle-même nécessite des protéines spéciales pour se former et se maintenir. Et tout ça doit avoir de l'énergie pour que ça fonctionne. Rien ne fonctionne sans énergie, et donc la cellule a besoin d'un système complexe pour produire et stocker de l'énergie. En fait, ce système d'une cellule, une simple cellule, et on en a plusieurs milliards dans notre corps, juste pour un corps, ce système nécessite lui aussi des dizaines de protéines différentes qui doivent toutes fonctionner ensemble. Et là, vous comprenez le casse-tête, en fait, des scientifiques. C'est que pour fabriquer des protéines, il faut lire l'ADN. Mais pour lire l'ADN, il faut des protéines. Les ribosomes fabriquent les protéines, mais sont eux-mêmes faits de protéines. Tout doit être protégé par une membrane qui nécessite des protéines. Rien ne fonctionne sans énergie qui nécessite des dizaines de protéines. En fait, tout doit exister simultanément. Et s'il y a une seule pièce du puzzle qui manque, eh bien, il n'y a rien qui fonctionne. Ça vous paraît toujours aussi simple, la vie ? Parce que c'est de ça dont on est en train de parler ici. Même si on sait comment ça fonctionne aujourd'hui, qui oserait dire que c'est facile ? Et qui oserait dire que ça marche tout seul ? Ok ? Ça, c'est une grande question. Je n'ai pas de réponse et je ne vais pas y répondre à votre place. Mais ça a conduit le James Tour, qui lui était le scientifique de l'année en 2013. Voilà ce qu'il dit à un des plus grands scientifiques. Nous sommes ignorants sur l'origine de la vie. Voilà. Donc ce n'est pas moi qui vous ai expliqué ce matin, c'est vraiment des métaphores que je suis obligé d'utiliser. Parce que ça, c'est ce qu'on a découvert et ce qui est visible. Mais au fur et à mesure qu'on découvre des outils pour aller de plus en plus loin dans la matière, on s'aperçoit qu'il y a d'autres choses qui sont derrière d'autres processus qu'on ignorait il y a 50 ans et qu'on ignorait l'année dernière, qu'on va découvrir cette année et qu'on en saura encore davantage. Mais plus on découvre, plus c'est complexe. Et là, on voit la main de quelqu'un de très, très, très grand. Très grand. Autrement dit, croire que Jésus est né par l'opération miraculeuse du Saint-Esprit n'est pas plus insensé que de croire que la vie est apparue par hasard. Si vous pouvez accepter qu'un Dieu tout-puissant ait créé la première cellule vivante avec toute sa complexité stupéfiante, pourquoi serait-il difficile de croire qu'il puisse concevoir un enfant dans le ventre d'une vierge ? Voilà, c'est juste la conclusion à laquelle moi j'arrive. Après, vous tirez vos propres conclusions. Ce ne sera pas utile, peut-être, d'exposer tout ce que je viens de dire là, mais je trouvais que c'était tellement extraordinaire de redécouvrir ces choses, et vous aurez les liens, vous pourrez regarder ces vidéos une dizaine de fois pour mémoriser tous ces processus. Parce que c'est simple, hein, n'est-ce pas ? Alors, je disais, on a répondu à la première question seulement, hein, j'ai été long sur ce point-là, mais on va aller beaucoup plus vite maintenant. La deuxième question, c'est... décrivez cet enfant et c'est sa généalogie. Et moi, j'ai relevé trois aspects, mais on pourrait en voir que deux ou voire quatre. En tout cas, la première, c'est que c'est royal. Royal, comment ? Par son demi-père. En fait, son père légal, c'est Joseph, parce qu'ils vont se marier après, d'accord ? Mais la lignée davidique ne vient pas de Marie. Elle vient de Joseph. Et c'est la généalogie de Luc, c'est ce qu'il révèle ici. Il dit « Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Et le verset 27 présente Joseph comme un descendant de David. Donc Joseph était dans la lignée davidique et donc la lignée du Messie. Et c'est pour ça qu'il y a un lien avec Jésus. Mais pas un lien total. Là, c'est un lien d'association. Ok ? Comme c'est le cas d'ailleurs de au moins quatre femmes dans la généalogie de Jésus qui n'étaient même pas juives. Hein ? Rappelez-vous de Ruth, la Moabite, Rahab et deux autres. En tout cas, ici, on voit que c'est une généalogie royale, mais elle est également divine. Ça, on l'a déjà vu dans le verset 35. Elle est conçue, la naissance de Jésus est conçue par le Saint-Esprit. Et donc, il va couvrir Marie de son ombre. Alors, ce n'est pas détaillé de manière scientifique, mais c'est ce qui se passe. Et donc, on doit faire confiance au texte. Il va te couvrir de son ombre, t'inquiète, je gère, c'est Dieu qui parle. Et puis, on voit aussi une généalogie humble, parce qu'on a vu celle du père qui est royal, enfin du demi-papa, et on voit celle de la maman qui, elle, est plutôt une condition humble et elle ne vit pas dans... Je pense aux Parisiens, là. C'est qu'elle ne vit pas dans la capitale. Hein, elle vit en province. Hein, Nazareth, c'est un petit village, quoi. Donc, du coup, c'est pas la grande notoriété. C'est pour les gens humbles. Et elle le dit elle-même, elle est de condition humble. Et du coup, tout ça, ça ancre la venue de Jésus, son humanité, dans la petitesse et non pas dans l'opulence de ce qu'on pourrait attendre d'un roi. Hein, parce qu'on voit que d'un côté, il est roi et de l'autre côté, il est humble aussi, d'une condition humble. Voilà, en gros, ce qu'on pourrait répondre à cette question. Ensuite, sa relation avec Dieu. Ah, on pourrait en dire long. Moi, je soulève deux éléments. Le premier, c'est son intimité avec Dieu, de par sa nature divine. En fait, le Messie, le texte dit qu'il est saint, et on l'a chanté tout à l'heure, donc c'est ce que je vous disais. Saint, c'est pas tout le monde qui est appelé comme ça dans la Bible. Hein ? L'Éternel est appelé saint, 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 dans Ésaïe, chapitre 6, mais à part Jésus, j'en connais pas d'autres. Il sera appelé fils du Très-Haut et il sera appelé aussi fils de Dieu. Alors, on voit l'appellation des fils de Dieu, mais ce n'est pas avec un grand F. Hein. Alors, il n'y a pas de majuscule, de minuscule, mais c'est simplement que là, le titre de fils de Dieu, c'est, lisez-le comme Dieu le Fils. Okay, c'est la deuxième personne de la Trinité. Et fils du Très-Haut, donc c'est la lignée d'en haut, hein, fils du roi des rois, du créateur de l'univers. Contrairement à ce qu'on lit dans Genèse chapitre 5, hein, si vous lisez bien Genèse chapitre 5, vous allez voir que Adam a créé des enfants avec Ève à leur image. On n'est plus dans l'image de Dieu. Vous voyez, c'est l'image de l'homme. Adam a créé des fils d'Adam. Et nous sommes fils d'Adam. parce qu'on dépend maintenant de cette lignée-là, de la lignée d'Adam, qui est une lignée pécheresse. Et là, on voit que la lignée de Jésus, elle est sainte. Hein, elle est directement venue du ciel. Donc, il va y avoir cette relation avec Dieu qui sera intime, intacte et parfaite. Pourquoi je dis ça ? Bah, tout simplement parce que la relation avec Dieu n'a pas besoin d'être restaurée. Elle est déjà là dès le départ. Jésus, lorsqu'il naît, il est déjà saint. Et ce matin, dans la voiture, on écoutait justement Luc 1 et 2. Et plus, on a lu jusqu'au chapitre 3, on mettait la bande-son de la Bible. Et en fait, on voit les parents qui sont étonnés parce que Jésus les quitte et il dit « Je dois m'occuper des affaires de mon père ». Et les parents, donc Marie et Joseph, donc ça c'est vers l'âge de 12 ans, ils ne comprennent rien. Ils sont là, ils se disent « Qu'est-ce qu'il dit ? Ça fait 3 jours qu'on le cherche, on s'inquiétait !» Mais vous devriez savoir que je suis là pour m'occuper des affaires de mon père avant tout. Et là on se dit « Waouh, il y a une dimension chez cet être qui est complètement différente de la nôtre. » Et donc il avait une relation, tout petit déjà, avec son père. À 12 ans, c'est déjà révélé de cette manière-là. Alors là, je suis sorti du texte, hein. On ne devrait pas aller jusque-là, mais c'est juste pour vous donner quelques petits trucs en plus. Ensuite, quelle était la relation qu'il avait avec les autres ? Eh bien, la venue de Jésus, elle va provoquer. Alors, nous, on sait que ça ne va pas être toujours joyeux pour Jésus. Hein. Ça, c'est une partie de sa vie. Mais là, si on lit que le texte, que celui-là, pas Isaïe 53, mais que Luc chapitre 1, eh bien, on voit de la louange et de la joie, de l'espérance. Et c'est ce qui ressort finalement de cette relation qu'il va avoir avec les croyants. Hein, c'est la louange d'Élisabeth, sa reconnaissance, hein, quand elle dit au verset 43, « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi ?» Elle est « Waouh, quel privilège !» Vous voyez, elle le prend de cette manière-là. De même, Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, qui n'était qu'une grosse crevette hein, à cette époque-là, dans le ventre d'Élisabeth, qu'est-ce qui s'est passé ? Que dit le texte au verset 41 ? Il tressaillit d'allégresse. Et ça signifie être rempli de joie, être excité de joie. Et c'est dans le ventre de la maman. Donc là, on se dit, oh, est-ce que les bébés communiquent des choses ? Est-ce qu'ils ressentent des choses ? Et là, on se dit, ah, tiens, intéressant. Intéressant. S'il arrive à tressaillir de joie alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère, c'est que c'est bien vraiment un être vivant, capable d'interagir. Vous voyez ? Marie, quant à elle, elle est poussée par le Saint-Esprit et elle va avoir de la reconnaissance et plusieurs autres choses, mais on va le voir dans la question numéro 5. Ensuite, eh bien, on voit sa mission, ça c'est le dernier point, j'ai oublié de le mettre ici, sa mission. Quand on lit au travers du texte, on voit qu'il va être à la fois roi, berger et sauveur. Il aura ces trois fonctions. Et effectivement, Jésus va exercer un leadership. C'est ce qu'on attend d'un roi et d'un berger, n'est-ce pas ? C'est le leader du troupeau, normalement, et le leader d'un peuple, le roi. Mais ce ne sera pas un leadership humain, pyramidal, autoritaire, tyrannique, comme on peut l'observer autour de nous. En fait, si vous vous souvenez comment Ésaïe avait parlé du Messie, qu'est-ce qu'il avait dit de lui ? Quelle est la caractéristique qui ressort, qui est tout le temps là ? J'ai entendu. Serviteur, exactement. Et donc, ça va être un leader serviteur. Ça va être un roi serviteur. C'est paradoxal, parce que généralement, les rois sont là pour se faire servir. Et là, c'est un roi qui va servir. Un berger qui va être au service de ses brebis. Normalement, on se dit, tiens, il va les conduire. Oui, il va les conduire. Il va les conduire dans la vérité, mais aussi les servir. Okay ? Et donc, en tant que roi, Jésus va établir un nouveau royaume, mais ce ne sera pas un royaume terrestre, avec un nouveau gouvernement. Vous voyez ? Hein, il choisit ses 12 ministres. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Son royaume, il va être invisible. Jésus va régner dans le cœur des gens. Vous voyez, pas encore sur terre. Ça viendra, mais il faut attendre le second retour. Et c'est le texte qu'a lu ce matin Pascal, la Jérusalem céleste. Lorsque la Jérusalem céleste va descendre, Dieu va transformer l'univers que nous connaissons. Il va faire de nouveaux cieux, une nouvelle terre, et là, il va venir régner. Et donc, physiquement, on sera avec notre roi. Mais là, en attendant, c'est un royaume spirituel. On ne le voit pas. Il est invisible, mais réel. D'accord ? Vous êtes là, maintenant, assis à la droite de Dieu. C'est ce que dit la Bible, Éphésiens chapitre 3, ou 2 ou 3, je ne sais plus. Vous êtes là, maintenant, assis dans les lieux célestes, à la droite de Christ. Ça, c'est la réalité spirituelle. Et donc là, c'est la même chose. Le royaume, on a bien un roi, mais pour le moment, son royaume est invisible. Et en tant que berger, bah, il va conduire, oui, il va conduire son troupeau, mais la différence avec un berger classique, c'est que là, il va mourir pour ses brebis. Le berger va tellement aimer ses brebis qu'il va mourir pour elles. Donc là, c'est plus qu'un serviteur, un berger qui se sacrifie. C'est un leadership sacrificiel. Vous voyez, ça va plus loin que le service, là. Il se sacrifie, il sert au point d'aller mourir pour elle. Et donc, c'est ce qu'on appelle un leadership sacrificiel. Et puis, il y a le dernier, c'est le sauveur. Hein, j'ai dit les trois, donc les trois rois, bergers et sauveurs. Et ça, c'est sa mission principale. Il va venir s'offrir en substitut. Vous vous souvenez, il va prendre la place de quelqu'un d'autre, il va prendre sur ses épaules la dette de notre péché. Relisez Ésaïe 53, et si jamais la personne a oublié, hein, quand vous allez étudier le texte, tu ne te rappelles pas, qu'est-ce qu'on avait lu déjà? C'était quoi la mission du Messie? Eh bien là, elle est rappelée dans ce texte-là. C'est le libérateur. Mais il va venir libérer de quoi? Est-ce que c'était nous libérer des Égyptiens? C'était ça la seule idée qu'il y avait derrière? Et si vous avez bien répondu à Ésaïe 53, on sait que la délivrance d'Égypte, c'était une image, une métaphore pour nous délivrer du péché qui est collé à notre peau et dont on n'arrive pas à se débarrasser, et on peut rajouter des lois, ça ne nous aide pas. Je vais vous donner une autre image par rapport à la loi. Souvent, je prends l'image des radars, et effectivement, on peut rajouter des radars, mais prenez-en une autre si ça vous convient mieux. Prenez un thermomètre, par exemple. Si vous avez de la fièvre, vous prenez un thermomètre, vous allez découvrir que vous avez 38 ou 39, et là, vous savez que vous êtes malade. Si je vous donne un autre thermomètre, encore plus précis, est-ce que ça va vous aider à guérir? Ben non. Et je peux vous rajouter 10 thermomètres, si vous voulez, des numériques, des thermomètres au mercure, des thermomètres frontaux qu'on prend sous le bras et ailleurs. On peut avoir plein de thermomètres, les amis. Le problème, il est ailleurs. Ce n'est pas parce qu'on rajoute des thermomètres que ça va nous aider à guérir. Eh bien, c'est exactement ça, c'est la loi. Elle est là que pour révéler. Elle montre la température et elle te dit « t'es malade, mon ami ». Et oui, t'es malade, mais ça ne t'aide pas. Et donc, Dieu vient rétablir, il vient guérir la maladie, le cancer qui nous ronge tous, c'est le péché. Et c'est comme ça, ce sont des images que j'utilise, mais c'est la réalité, en fait. Et donc là, on est incapable de se guérir soi-même. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un libérateur, d'un médecin qui vient nous guérir en profondeur. Et ce médecin, c'est le sauveur, le libérateur, qui vient nous délivrer de la maladie incurable qu'on ne peut pas se débarrasser. C'est la culpabilité de notre péché. Et il vient exactement pour ça. Il vient payer la dette à la croix de sa propre vie et il la prend sur lui. Donc là, je fais un petit retour dans Ésaïe 53, mais on peut le faire parce qu'on l'a déjà lu, vous voyez? Et là, maintenant, je peux parler de Jésus et y associer directement parce qu'il y a une corrélation entre les textes d'Ésaïe 53. D'ailleurs, je vous le dis en passant, mais la moitié des citations du Nouveau Testament de l'Ancien vient du livre d'Ésaïe. La moitié, c'est énorme. C'est-à-dire que c'est un livre fondamental, Ésaïe. Et donc là, je suis en train de mémoriser, donc si vous voulez le faire avec moi, mémorisez tout Ésaïe 53 et les quatre derniers versets d'Ésaïe 52. C'est extraordinaire. Alors, je suis vieux de plus en plus, chaque jour, hein. Et c'est compliqué, mais je m'y attelle. Alors, je vous demanderai de prier pour ça. parce que je veux vraiment intégrer Ésaïe 53, parce que c'est énorme, en fait, ce texte. Je veux en faire mon passage de l'année, pas mon petit verset de l'année, mais tout le texte de l'année, vraiment. Et que ça soit le vôtre aussi, pourquoi pas. Et c'est bientôt 2026, donc j'ai encore un mois là pour mémoriser tout le texte. Alors, on passe à la deuxième question, ça va aller beaucoup plus vite maintenant. D'ailleurs, je vais pas tarder. Allez, quelle impression se dégage de ce texte quand vous le lisez? Moi, je vois plusieurs choses. La première, c'est la crainte et la stupeur. Hein, verset 29, troublé. Hein, on lit le troublé par cette parole. Elle se demandait ce que signifiait une telle situation. Verset 30, l'ange lui dit, sois sans crainte. Donc vous voyez, il y a de la peur et de la stupeur. Elle est troublée, Marie, ici. Et puis, au verset 30, il lui dit qu'elle a trouvé grâce. D'accord ? Donc ça veut dire que, quelque part, il y avait un petit problème. Elle a trouvé grâce. Marie a peur et l'ange lui dit « Sois sans crainte ». Donc ça veut dire qu'il y avait de la crainte qui était là, clairement. Et elle s'interroge, elle dit à l'ange « Comment cela se produira-t-il puisque je ne connais pas d'homme ?» Elle s'inquiète et elle a raison. Elle dit « Mais c'est pas normal, il y a un truc bizarre. » Voyez. Donc vous voyez, il y a de l'inquiétude. Et je pense que si mon épouse avait eu la visite d'un ange au moment où on a eu notre fille, qui lui ait dit des choses comme ça, je pense qu'elle aurait été aussi dans la stupeur. Déjà, avoir un ange, je pense que si vous en voyez tous les matins, allez consulter. En tout cas, voir un ange déjà qui vient nous parler et qui nous annonce en plus une nouvelle comme ça, waouh, c'est énorme, c'est énorme. Donc il n'y a rien d'anormal ici, mais aussi de la joie et de la reconnaissance, on l'a vu tout à l'heure, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est les versets 43 et 44. Et puis on sait qu'il y a beaucoup de reconnaissance parce que Marie va écrire un cantique, le cantique de Marie, c'est connu, le cantique de Marie, sauf que quand on écrit un cantique, les amis, en général, c'est quand on est dans la joie. Sinon, on écrit un psaume de lamentation. Ça a sa place, hein ? Ça a sa place. Il y en a pas mal dans la Bible. Mais ici, ce n'est pas des lamentations. C'est vraiment de la joie et de la reconnaissance. Elle reconnaît le grand Dieu qui vient et qui vient habiter, qui va venir habiter en elle. Et là, waouh ! Mes amis, si vous êtes une femme là aujourd'hui, si vous aviez la visite d'un ange, je pense que vous vous direz, waouh, pourquoi moi ? Pourquoi moi ? À 99 ans ? Franchement ? Bon, il n'y en a pas. Hein. C'était juste une boutade. Vous avez le droit de rire, hein, des fois. C'est... Troisième question. En quoi cela contraste-t-il avec l'ambiance de Noël habituelle dans nos sociétés ? Qu'est-ce que vous faites, vous, à Noël, si vous n'êtes pas entre chrétiens ? Qu'est-ce que vos amis font ? Ou qu'est-ce que vous faisiez dans vos familles à l'époque ? On mange, hein, c'est un bon repas, on va jouer, on va passer du temps en famille, c'est un temps joyeux, c'est un temps où on se soucie de pas grand-chose. À vrai dire, la préoccupation des enfants, c'est les cadeaux. Ça, c'est la principale préoccupation des enfants. Celle des parents, c'est de s'occuper du repas, de la dinde, si vous avez une tradition de dinde, mais peut-être d'autres choses, des spécialités. Et donc, vous êtes acharnés, mais on pense absolument pas à ça, en fait, à ce qui est en train de se passer. Mais si vous fêtez Noël, les amis, sans parler de Jésus, alors il y a un gros problème. Parce que Noël, ça veut dire quoi ? Noël, naissance, nativité, ça vient de natalis, vous voyez ? Ça vient du latin. Nativité. Donc, quand le mot Noël veut dire nativité, si on enlève la nativité, donc la naissance de Jésus, eh bien, ça n'a plus de sens. Et en fait, le cœur du message, il est dans ce qu'on vient de lire. C'est un bébé qui va naître pour sauver l'humanité. En fait, c'est ça, là, le véritable message de Noël, et c'est ce qu'on devrait se souhaiter, en se disant, waouh, notre Messie est né dans cette période. On ne peut pas dire une date exacte, mais il est né dans une période, on le marque dans les temps, et c'est super de le faire. Okay ? Et je ne suis pas en train de tirer sur les sapins, parce que déjà, si vous regardez la pub, les trois sapins. Donc on va rebondir là-dessus. Mais on ne va pas oublier de parler de Jésus. Faites-moi confiance. Ça, c'est samedi et dimanche. Comment Marie parle-t-elle d'elle-même. Et donc là, moi, je dirais que Marie était... Alors, pourquoi je dis ça? C'est pas la bonne question, là. C'est quelle est l'attitude de Marie? Voilà, pardon, j'ai sauté une question. Je sais pas pourquoi. Ouais. J'ai raté une question. Comment... Quelle est l'attitude de Marie lorsque l'ange s'adresse à elle et qu'a-t-elle dû ressentir? Bon, on l'a vu en partie. Mélange de peur, d'émerveillement, d'humilité, voilà, en gros. Et ensuite, comment elle parle d'elle-même et qui est cette Marie, en fait? Ben, Marie, moi, je n'hésite pas à dire que c'était une femme exceptionnelle. Exceptionnelle. Non pas qu'on doive en faire une idole, hein, mais parce que je reconnais les qualités et la piété de cette femme, son humilité. Je reconnais son cœur, en fait, et c'est vraiment une femme extraordinaire. Elle ne se met pas au centre, Marie, elle ne se voit pas comme une héroïne, mais comme quelqu'un de petit que Dieu regarde avec grâce et qui va la bénir. Donc elle accepte, elle prend, hein, elle se dit elle-même, elle se décrit comme la servante du Seigneur. La servante, les amis. Quand on sert quelqu'un, on est l'esclave, hein, littéralement. L'esclave de Dieu. Donc elle n'est pas à son niveau. Là, ils sont en train de corriger nos amis catholiques, hein, sur l'idée de la rédemptrice ou co-rédemptrice. Mais ça ne changera pas toute leur théologie. Cela dit, ici, on voit qu'elle est la servante au service de Dieu. Et donc pas à son niveau. Hein, on est d'accord. Elle se reconnaît humble. Et puis de basses conditions. Donc c'est vraiment quelqu'un de humble, de pieux. Et dans son chant, elle insiste non pas sur le privilège qu'elle a, mais sur l'initiative de Dieu. Elle dit qu'il a fait pour elle de grandes choses, qu'il va relever les humbles, qu'il va disperser les orgueilleux et qu'il va se souvenir de son alliance. Donc vous voyez, elle met Dieu en avant. Et donc je me dis, waouh, ça c'est de la piété. Vraiment. Elle a quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans sa vie. Et pourtant, au lieu de regarder elle-même et se dire « Waouh, t'as vu, moi, j'en fais plus que vous, les amis. Hein. » Non, non, non. Elle remet ça et elle dit « Waouh, Dieu est grand. » Je trouve ça merveilleux. Donc oui, nous pouvons dire du bien de Marie. Vraiment. Sans en faire une idole. Et elle se voit aussi sauvée par grâce. Hein. C'est ça qui fait qu'on apprécie Marie. C'est qu'elle est comme nous. Elle se voit comme une pécheresse, mais sauvée par grâce. Et ça, ça ressort vraiment de son cantique. Dernière, que dire de Jésus s'il a été conçu par l'œuvre du Saint-Esprit? Honnêtement, eh bien déjà, on peut dire qu'il est, il est saint, qu'il a Dieu pour origine. Hein, c'est qu'il n'y a pas de papa ici. Donc Dieu est intervenu. Il a remplacé le spermatozoïde qui était probablement celui qui véhiculait le péché. Hein, bon, ça c'est moi qui dis, ce n'est pas dans le texte. Mais en tout cas, on voit une origine ici divine, sa sainteté. Il est saint par nature, contrairement à tous les humains de cette planète. Il peut porter les fautes d'autrui sans être lui-même coupable, parce que justement, c'est parce qu'il est né d'une vierge et qui n'avait pas de papa. C'est grâce à ça qu'il peut porter notre péché, parce qu'il n'est pas péché lui-même. Il va le devenir, mais il ne l'est pas. Il portera nos péchés. Et ensuite, il vient accomplir la nouvelle alliance. Donc, il ne vient pas l'enlever, ou il vient accomplir, d'accord ? Accomplir la loi et accomplir cette nouvelle alliance. Et là, il faut relire, malheureusement, on n'a pas pu le faire, mais Jérémie 31. Voilà, en gros, ici. Et la sixième question, c'est qu'apprend-on du rôle futur de Jésus? Donc, le rôle futur de Jésus, eh bien, il va restaurer la relation avec Dieu, il va porter l'autorité divine comme roi, hein, donc il va avoir cette autorité de roi. Il va apporter le salut de Dieu au problème du péché. Et ça, c'est vraiment le cœur de sa mission. Il va rétablir la justice et renverser l'orgueil humain, c'est ce que dit Marie. Et il va accomplir les promesses de la rédemption qui sont annoncées dans l'Ancien Testament. Voilà le programme pour cette session numéro 5.